c'est justement parce que les Nord-Coréens, finalement, mènent ce jeu diplomatique extrêmement finement.
Et puis surtout, les Nord-Coréens sont tout de même en position de force depuis un an, après une année d'essai nucléaire. Ça y est, ils sont considérés comme une véritable puissance nucléaire. Donc, quand on est en position de force, c'est beaucoup plus facile d'aller négocier, d'aller rencontrer son principal ennemi, le président Trump.
Ah ben, il est en position de force, en effet, parce qu'il possède l'arme nucléaire. Il est en position de force également vis-à-vis de son peuple, donc il peut passer finalement à une autre étape. Et Donald Trump, lui, à force d'avoir mis des lignes rouges systématiques avec la Corée du Nord, est finalement entré, s'est mis lui-même dans une sorte d'impasse. L'escalade ne pouvait pas non plus aller au-delà. Donc finalement, il y a une convergence et aujourd'hui, on assiste à ce sommet.
Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, une question pour vous. Elle nous est posée par Delphin, qui est au Bénin. Bonjour Delphin.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons avec nos invités.
Oui, dans la même veine, comment expliquer que Trump soit revenu sur sa décision concernant la rencontre ?
Alors, c'est vrai que Donald Trump a multiplié les revirements. Juliette Morillon en parlait à l'instant. Dans un premier temps, il se dit « Ah, j'accepte immédiatement l'offre de Pyongyang ». Ensuite, quelques semaines plus tard, si ma mémoire est bonne, il annonce l'annulation de la rencontre. Et puis, 24 heures plus tard, il dit « Ah non, non, le sommet est maintenu ». On a du mal à comprendre où vous voulez aller à ce moment-là, Donald Trump, et pourquoi autant d'hésitation ?
Bien sûr, d'abord il faut rappeler qu'on est dans un contexte beaucoup plus large, très particulier. La Corée du Nord, c'est une vieille fracture dans la société américaine. 40 000 morts pendant cette guerre, ça n'a pas été résolu. C'est une défaite pour l'Amérique, puisque à la fin, non seulement ils ne gagnent pas, mais en plus, ils n'ont même pas de traité de paix. C'est juste un armistice qui est signé. Et ça va durer comme ça pendant 70 ans et aucun président américain n'a réussi à résoudre le problème. Pour ceux qui ne le savent pas, Donald Trump se charge de le rappeler assez régulièrement, bien entendu. Et Donald Trump, pendant sa campagne, a expliqué qu'il était tellement fort et tellement pas politicien et tellement pragmatique que sa méthode allait fonctionner et que lui allait régler ce problème, parce qu'il suffit de se parler les yeux dans les yeux, quel que soit le problème, avec la pire crapule de la Terre, c'est ce qu'il disait pendant la campagne, et on peut arriver à dépasser les problèmes. Et c'est ce qu'il a essayé de nous démontrer. Donc, en tendant la main ou en essayant de gifler, dans les deux sens, c'est toujours la même idée, c'est je vais arriver à mon but qui est d'essayer d'arriver à cette paix.
Mais enfin, en même temps, en essayant de gifler, pour reprendre votre expression, Jean-Éric Brana, on voyait bien que ça ne marchait pas. À chaque fois, Trump fixait des lignes rouges, à chaque fois Kim Jong-un les franchissait, et qui passait pour le ridicule finalement, c'était Trump.
Eh bien, je ne suis pas certain que vous ayez raison, j'apporte une contradiction polie, mais quand même assez ferme à ce que vous venez de dire, car en réalité, quand notamment on se souvient à la tribune de l'ONU, il explique qu'il pourrait détruire ce régime, je pense que ça résonne très fortement dans la tête de Kim Jong-un à ce moment-là, qui réalise bien que si jamais il avait la mauvaise idée d'atteindre le sol américain, la puissance de frappe américaine le détruirait totalement. Lui, son régime est certainement une grande partie de son territoire. Il n'a jamais attaqué les Américains. Il a fait des tirs, mais en faisant attention, vous savez, il aurait pu viser les terres américaines. Il avait les moyens, et je vais te le dire, il a quand même un arsenal très important. Il aurait pu viser Guam et atteindre Guam, puisque c'est tombé pas très très loin.
Guam étant...
Étant une île du Pacifique qui appartient aux Américains, qui est sous accord américain. Et il faut savoir que quand Donald Trump mène ses négociations, il parle ensuite à ses électeurs qui attendent qu'il installe la paix, parce qu'on a tous envie de paix, bien évidemment. Et comme il est en train de montrer que c'est le plus grand négociateur de la Terre, le tour de passe-passe qu'il a fait en se retirant, c'était de couper l'herbe sous les pieds de tous ceux qui disaient qu'il avait fait monter Kim Jong-un sur la scène internationale et qu'il se faisait berner. Il a repris l'initiative en ce moment-là en retournant l'initiative et donc il est revenu en acceptant à ce moment-là, à ces conditions, que la négociation puisse se remettre sur des rails.
Oui, vous êtes d'accord, Juliette Morillo, la menace d'une frappe américaine sur la Corée du Nord a pesé dans le changement diplomatique de Kim Jong-un.
Depuis tout temps, la Corée du Nord n'a jamais eu d'intention tout simplement suicidaire. Elle sait pertinemment que si elle avait visé ce qu'elle aurait pu faire, soit Guam, soit les États-Unis, bien évidemment, elle serait détruite immédiatement. Cette arme, c'est le principe même de la dissuasion question nucléaire. Elle possède l'arme nucléaire, c'est dissuasif. Quant à attaquer la Corée du Sud ou le Japon, ça n'a jamais été son intention. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'armes nucléaires. Si la Corée du Nord avait voulu être agressive avec Séoul, au-delà de la rhétorique, elle n'avait pas besoin d'armes nucléaires pour détruire la ville. Séoul, je vous le rappelle, est à moins de 70 km de la frontière avec le Nord. Il suffit d'armes conventionnelles. Donc, il faut vraiment pas oublier le caractère dissuasif, même si c'est terrifiant de voir un pays posséder l'arme nucléaire. Aux yeux de la Corée du Nord, elle était dissuasive, c'était une assurance vie, et les Nord-Coréens n'ont jamais eu d'intention suicidaire.
Des questions maintenant, notamment sur les répercussions sous-régionales. Delvi, bonjour.
Bonjour Juan, ravi de vous avoir au téléphone. Bonjour à tous et un grand bonjour à votre formidable équipe au standard.
Merci de vos encouragements. Vous êtes au Congo, on vous écoute.
La Russie et la Chine ont-elles joué un rôle dans cette rencontre historique? Alors, et quel va être l'état de relation entre la Corée et la Chine suite à cette rencontre?
Alors la Chine, rappelons-le, allié historique et principal partenaire commercial des Nord-Coréens. Le rôle joué par les Chinois dans l'organisation de cette rencontre, on a l'impression qu'ils étaient un peu hors jeu.
Alors, on pourra avoir cette impression, mais Kim Jong-un a joué de façon très fine. Souvenez-vous, avant sa rencontre, notamment avec le président sud-coréen Moon Jae-in, il s'est rendu en Chine, il a rencontré Xi Jinping, il l'a rencontré deux fois. Il a envoyé également son ministre des Affaires étrangères rencontrer Lavrov à Moscou. Il y a même dans l'air l'idée qu'il pourrait y avoir une rencontre avec Poutine. Lavrov lui-même s'est rendu à Pyongyang.
Contre à l'automne.
Voilà. Mais donc tout cela montre que finalement il est allé assez diplomatiquement parler à Xi Jinping avant, de façon à ce que la Chine ne se sente pas écartée. Et finalement, il est allé à ce sommet avec ses alliés derrière lui, c'est-à-dire la Chine et la Russie.
Comment interpréter tout à l'heure en conférence de presse qu'on a pu suivre en direct sur RFI, le président Trump adressait une pique aux Chinois?
Oui, c'est-à-dire
en disant que ces derniers temps, ils n'avaient pas vraiment fermé la frontière.
On avait l'impression un petit peu d'être une distribution des prix, et c'était assez amusant parce qu'en effet Donald Trump a loué les efforts du président sud-coréen Moon Jae-in. Incontestablement, il faut montrer que ce président sud-coréen a tout fait pour organiser cette rencontre, pour faire le go-between, l'intermédiaire entre Washington et Pyongyang.
Il a également salué le premier ministre chinois, japonais.
Alors lui, il a eu une mention spéciale puisqu'il a dit « mon ami ». Il a employé un terme très amical, Shinzo Abe, qui est manifestement qui est manifestement avec les États-Unis et se méfie énormément de Kim Jong-un. Et en revanche, il a dit que Xi Jinping était un grand dirigeant, mais il a quand même lancé un petit avertissement en précisant que ces temps derniers, voilà, la Chine qui normalement avait voté les sanctions contre la Corée du Nord ne remplissait plus ce qu'elle avait promis, ses promesses, et qu'elle avait en effet repris le commerce de part et d'autre, notamment des fleuves Toumani-Yalou qui forment la frontière. Et en effet, la Chine et la Russie ont repris un petit peu le commerce avec la Corée du Nord.
Le double jeu de Pékin, en l'occurrence. Voilà. Ça a agacé Donald Trump, ce double jeu chinois, Jean-Éric Brunard.
Ça ne vous a pas échappé. Moi non plus, ça ne m'a pas échappé, évidemment. Il y a quand même une relation très complexe avec la Chine, puisque la Chine est accusée de la pauvreté qui a pu sévir aux États-Unis avec la crise de 2007-2008. Évidemment, les produits chinois ont envahi le marché mondial, mais le marché américain aussi. Et c'est vrai que la balance commerciale entre la Chine et les Américains est très déficitaire au profit des Chinois, parce que il y a des vols de brevets, parce que il y a du dumping avec aide du gouvernement de l'État chinois, parce que les entreprises américaines ne peuvent pas s'installer librement en Chine et aller commercer aussi, parce qu'il y a des barrières douanières, il faut le dire, en Chine. Et tout ça, Donald Trump, là dans le collimateur. Or, dans cette affaire, il se joue aussi ces relations entre la Chine et les États-Unis très fortement. Et on a vu qu'il y a une sorte de billard, non pas à trois bandes, mais à 4, 5, 6 ou 7 bandes, parce qu'effectivement, ça rebondit de tous les côtés. Et on a vu que dans le cadre des négociations commerciales, le dossier nord-coréen venait très souvent et qu'on reprochait aux Chinois certains de leurs comportements pour pouvoir mieux négocier avec eux sur autre chose qui n'a absolument rien à voir. Donc Donald Trump, qui nous explique qu'il est le roi du deal, de la négociation, sait absolument manier et mélanger tous les dossiers pour pouvoir avancer petit bout par petit bout. Et effectivement, dans cette affaire-là, les Chinois ont été accusés de jouer un double jeu vis-à-vis de la Corée du Nord en ne respectant pas l'embargo qui a été voté par l'ONU. On le rappelle, hein, les résolutions 2311 et 2315 de août et septembre dernier, qui touchent les matières premières particulièrement, et que la Chine continue à commercer plutôt plus que moins.
En deux mots, Juliette Morillot, et on repasse en standard. La Chine a intérêt à ce que ce processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne se réalise rapidement. Elle a intérêt à ce que Pyongyang et Washington signent la paix.
Alors, elle a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'effondrement du régime et que la Corée du Nord reste la Corée du Nord avec son régime. En revanche, une Corée du Nord nucléarisée avec ses gesticulations l'embarrassait et la mettait dans une position désagréable. Donc elle veut une péninsule apaisée, mais ce qui ne veut pas dire une réunification, ce qui ne veut pas dire surtout un changement de régime à Pyongyang.
Alors on va parler justement des relations entre le Nord et le Sud de cette péninsule. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan, et merci beaucoup de me recevoir.
Je vous en prie. Vous êtes au Gabon, à Libreville, nous vous écoutons.
Ok, j'ai deux petites questions Juan. Je voudrais savoir, la rencontre entre Trump et Kim Jong-un peut-elle faciliter l'entente durable entre les deux Corées ?
Alors, on a vu, et vous en parliez tout à l'heure, Juliette Morillot, ce rapprochement entre le Nord et le Sud. Vous faisiez référence aux deux rencontres de ces dernières semaines entre Kim Jong-un et le président Moon. C'est un rapprochement spectaculaire entre les deux Corées.
Oui, c'est un rapprochement spectaculaire, mais alors c'est assez amusant. Je vais vous rappeler un proverbe que je rappelle souvent, qui résume un petit peu l'histoire de la Corée, qui est « quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu ». Toute l'histoire de Corée est faite de cela. Les baleines, ce sont les grandes puissances, et les crevettes, c'est la Corée. Et là, lors du dernier sommet à Panmunjom, on a vu que les crevettes reprenaient un petit peu leur destin en main, puisque finalement, vous aviez ce rapprochement extraordinaire entre Moon et Kim. Alors, Moon a joué un rôle, Moon Jae-in, le Sud-Coréen, a joué un rôle énorme, puisque je pense que c'est lui qui a réussi aussi à convaincre Donald Trump, de dialoguer avec Pyongyang, et lui a donné des garanties que lui, en tant que Coréen, avait obtenues de Kim. Donc, le rôle de la Corée du Sud est capital. Et je pense que si, c'est un petit peu un scénario fiction à rebours, si par hasard ce sommet s'était mal passé et que Trump avait décidé au dernier moment de tourner le dos, vous auriez vu de façon curieuse une alliance assez normale entre Corée du Nord, Chine et Russie, mais probablement aussi la Corée du Sud qui n'aurait pas compris ce qui se passait. Donc c'est important.
Un traité de paix entre le Nord et le Sud.
C'est ce que demande.
Mais on peut imaginer une signature.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faudrait faire un traité de paix entre Corée du Sud, Nations Unies et Chine. Mais je pense
Les États-Unis.
Avec les États-Unis, bien évidemment. Mais je pense que c'est ce que veulent les Nord-Coréens et bien évidemment les Sud-Coréens, et c'est ce que demande la Corée du Nord depuis des années.
Jean-Éric Brana, sur la perspective d'un traité de paix entre le Nord et le Sud.
Ah, mais je crois qu'il est quasiment acquis, puisque c'est également dans le texte. Si on regarde, on nous parle de paix durable, et effectivement c'est quelque chose que Donald Trump a déjà évoqué en expliquant que c'était la partie la plus simple à réaliser, puisque en réalité, et Juliette vient de le dire superbement, tout le monde a envie de cette paix. Moon Jae-in a fait tellement d'efforts pour essayer d'aller vers cette paix. Kim Jong-un la souhaite aussi, donc sur le terrain, pas de problème, mais Chinois, Russes, Américains et le reste du monde veut aussi, qui ne veut pas la paix en réalité. Donc je crois que ce traité de paix sera certainement la première chose qui va sortir très rapidement. Ça ne veut pas dire, tout de suite on peut le préciser, réunification, parce que là par contre je crois que le Sud n'en veut absolument pas. On va aller beaucoup plus doucement. Ce qu'il va y avoir, c'est des échanges économiques. La première chose concrète qui va se faire entre les deux parties de la péninsule, les deux pays bien sûr, et voilà, et là on va y aller tout droit.
Alors Pierre avait une deuxième question à vous poser, Pierre.
Oui, Juan. Je voulais savoir aussi, est-ce que le président nord-coréen tiendra-t-il parole dans ce processus de nucléarisation de son pays ?
Juliette Morillot, vous soupirez, vous souriez. Que faut-il en penser? Peut-on avoir confiance en Kim Jong-un? Et je poserai la question également à Jean-Éric Bernard. Peut-on avoir confiance en Donald Trump quand on a vu comment il s'est comporté il y a quelques jours avec ses camarades du G7?
Alors, moi, je dirais en effet, peut-on avoir confiance en Trump et en Kim? Et vous avez fait un lapsus en parlant de Kim Jong-il qui est très révélateur parce que vous avez déjà eu des accords avec les États-Unis et notamment les accords du Credo en 94, puis des discussions en 2000, puis en 2005. Et en fait, quand vous regardez ce que disent des savants comme Siegfried Ecker que j'ai cité tout à l'heure, il explique que ces accords n'ont pas fonctionné, mais que les responsabilités étaient partagées. C'est-à-dire qu'à l'époque, les États-Unis avaient fait des promesses qu'ils n'avaient pas tenues. C'est-à-dire qu'il y avait des livraisons de fioul qui ont été retardées. Ils devaient construire une centrale nucléaire à eau légère, donc à usage civil en Corée du Nord. Ils ne l'ont pas fait. Pendant ce temps-là, les Nord-Coréens de leur côté ont commencé à enrichir de l'uranium.
Donc à vous entendre, la faute aux Américains alors?
La faute aux deux, je dirais que les responsabilités sont partagées. Et quand on lit avec exactitude ce que Seagal, qui a participé à ces négociation et qui est un négociateur américain, ou même ce que dit donc Siegfried Ecker, le spécialiste du nucléaire américain, il dit aussi que les responsabilités sont véritablement partagées entre les deux. Donc, à qui peut-on faire confiance entre les deux? Là, je n'ai pas de boule de cristal.
Jean-Éric Bernard.
Je crois que si on s'en tient aux intérêts manifestes de l'un et de l'autre, on peut faire confiance aux deux, puisque actuellement, c'est vrai que les planètes sont réellement alignées pour que les deux aient envie que cela fonctionne. Kim Jong-un en a besoin pour son propre avenir dans son pays. Donald Trump, même chose, et même à très court terme.
Alors justement, donc, on va en parler, on a une question. Vous tendez une très belle perche à Jean qui nous appelle de Cotonou.
Mais je rajoute quand même, si vous permettez, que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire confiance dans le temps à l'un et à l'autre.
Voilà qui est dit. Il est 10h57, il nous reste 3 minutes. On va prendre certainement la dernière question de cette émission spéciale. Jean, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tout le monde qui nous écoute.
Vous êtes à Cotonou, on vous écoute.
Oui. Alors, finalement, moi j'aimerais bien savoir quel impact cette rencontre aura-t-elle sur la popularité de Donald Trump?
D'autant que nous sommes, vous le disiez à l'instant, Jean-Éric Bernard, en période électorale, des élections, des échéances au mois de novembre.
Ah bien là, les sondages sont déjà partis certainement aux États-Unis et je crois que Donald Trump va vous les tweeter dans les prochaines heures, puisqu'il adore ça quand ces sondages remontent, on le sait très vite. Donc je peux vous dire, Rasmussen va être à 50 dès ce soir, ils seront à 55 avant la fin de la semaine et peut-être même, allons-y, jusqu'à 60 à la fin du mois. Bien sûr que sa popularité va augmenter, encore une fois, je l'ai
dit
plusieurs
fois. J'ai du mal à comprendre, Jean-Éric Bernard, je croyais que les Américains, en tout cas l'électorat américain et surtout celui de Trump ne s'intéressait pas à la politique internationale.
Non, mais là, les États-Unis, c'est le pays où John Lennon s'est installé quand même. On est bien d'accord, où Martin Luther King a fait une croisade absolument extraordinaire, où la paix, on l'aime avant tout. Mai 68, naissance du progressisme, c'est mon dernier livre.
Effectivement.
On est bien d'accord. On est tous les enfants de 68 quelque part. Bien sûr que tout le monde veut la paix. Bien sûr que tout le monde va reconnaître que Donald Trump a apporté un moment de paix à ce monde. Comment voulez-vous être contre ça? Maintenant, est-ce que ça va jouer sur les élections? Oui, pourquoi? D'abord parce que les midterms sont des élections qui n'intéressent quasiment personne sur le terrain. Les élections de mi-mandat. Dans certains comtés, on n'a pas plus de 10% de participation. Ça veut dire que les démocrates inscrits et les républicains inscrits se déplacent. Qui va faire la différence? Ce sont les indépendants. Et ces indépendants, qu'est-ce qu'ils vont vouloir du résultat? Or, le résultat, on l'a. On l'a sur le plan économique, on l'a sur le plan de la régularité par rapport à ce qui a été promis et on l'a maintenant sur le plan international. Donc, ça va faire, bien sûr, pencher la balance en faveur de Donald Trump, quelles que soient les attaques qui est contre lui d'ailleurs.
Donc on s'attend donc à une envolée de la popularité de Donald Trump dans les sondages. Juliette Morilleux, et on va terminer avec vous, qu'en est-il pour Kim Jong-un? Est-ce que l'opinion publique nord-coréenne est aujourd'hui plus que jamais fière de son leader?
Elle est plus que jamais en effet fière de son leader et comme le disait Jean-Éric Bernard il y a quelques instants, tout le monde dans le monde se réjouit de la paix et les Nord-Coréens bien évidemment, les Nord-Coréens. Quand on va en Corée du Nord, on vous rappelle en permanence les malheurs de la guerre. Le pays détruit 90% des villes de Corée du Nord ont été détruites pendant la guerre, des régions entières détruites au napalm. Et cette douleur de la guerre est ressassée en permanence. Donc la paix, c'est Kim Jong-un pour les Nord-Coréens sera celui qui apporte la paix. Donc lui aussi, ce sera bien pour sa popularité.
Kim Jong-un et Donald Trump, prochainement de nouveau main dans la main à Washington, à la Maison-Blanche, Jean-Éric Bernard.
Et alors, le calendrier idéal pour Donald Trump, c'est que ça se fasse en septembre et octobre, c'est-à-dire, si possible,